Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
Bon vendredi, Luc.
Bon vendredi, Alexandre.
Alors, c'était... On suivait ça de jour en jour, hein, le procès là, de ce complotiste Alex Jones aux États-Unis. Ouais. C'était vraiment de jour en jour ahurissant. Et finalement, il en paye le prix.
Écoute, Alex Jones, ça fait, je pense que c'est ma 18e année dans les médias cette année. Ça a été mon premier contact. Ce que lui faisait, mais ce qu'il a fait aussi après la tuerie de Sandy Hook, ça a été mon premier contact avec les ramifications de ces fameux complotistes et de la désinformation aux États-Unis. Alex Jones, il faut pas s'en cacher, là, il vit de la désinformation, il vit très bien.
Oh, il vit
ça.
Grassement, hein? Oh, oui, ah, il vend toutes sortes de cochonneries.
Ce qu'on a appris, ce qu'on a mis en lumière pendant ce procès-là, c'est à quel point, finalement, il a nourri la machine de désinformation, parce que pour son réseau, pour ses retombées financières, c'était particulièrement généreux. Et là, ce à quoi on assiste des années plus tard, mais il faut surtout penser aux familles des victimes, hein, de cette vingtaine d'enfants qui ont été abattus. Donc, c'est au bout de tout ce cycle-là, on imagine la lutte des parents en général, puis de ce couple-là qui l'a poursuivi, puis qui vient d'obtenir gain de cause. Il faut imaginer la douleur, la colère, la révolte de ces gens-là, qui ont perdu des proches, mais on a remis en question ces morts-là en entretenant pendant très, très, très longtemps ce qu'Alex Jones disait.
Ça n'a pas de sens.
Que tout ça était mis en scène et que c'était des acteurs.
C'est indécent. Je veux dire, je lisais les propos que ce gars-là tenait. Là. C'est indécent. Je veux dire, tu peux pas là avoir un minimum de conscience puis dire des insanités comme ça. Des gens en deuil, ça n'a aucun sens, c'est déconnecté là, de la réalité complètement. Aucune conscience, aucune morale.
Il y a toujours eu de ces espèces de démagogues très, très populistes qui sévissaient aux États-Unis, mais on en a eu une concentration dans les dernières années. Tu vois, on vient de voir Steve Bannon payer le prix. C'est modeste, il va se retrouver derrière les barreaux, mais il est finalement reconnu coupable de quelque chose et cette fois-ci, il ne pourra pas s'en sortir. Mais écoute, on a combien de gens de l'entourage de Trump, des partisans dans les médias ou sur les réseaux sociaux du président, qui finalement ont bénéficié pendant trop longtemps de passes gratuites, mais qui finalement sont confrontés à la justice. C'est bien peu 4,1 millions de dollars pour Alex Jones, là, considérant tout le mal qu'il a fait. Mais au moins, quelque part, justice a été rendue, puis il y a une forme de décence là, qui s'impose, et ils peuvent pas constamment échapper à la justice. Et je ne pouvais que me réjouir qu'enfin on le coince, et que lui, d'ailleurs, dans une déclaration, dise « C'est arrivé pour vrai, ça, la tuerie de Sandy Hook. Les excuses arrivent bien tard, hein, le fait de reconnaître la vérité arrive bien tard, mais au moins ça se fait. Et j'espère, et je tempère malgré tout mes ardeurs, mais j'espère que le message passe auprès de la population américaine, ou en tout cas d'une certaine frange de la population américaine, qu'on les manipule et qu'on abuse d'eux, puis qu'on récupère de l'argent pour nourrir ces complotistes. Puis ces gens, je pense que l'expression que tu as utilisée, c'est la plus juste, c'est indécent. Donc qu'on nourrisse une forme d'indécence particulièrement vicieuse.
Et ça s'est terminé dans tout un coup d'éclat quand même, hein? Avec l'avocat des parents qui, tout au long de ce procès-là, a fait Alex Jones se contredire. Et là, il arrive à la toute fin en disant, ben, c'est parce que moi, là, votre avocat m'a envoyé une copie de votre téléphone des deux dernières années. Mettez ça dans votre pipe, Monsieur Jones. Et puis là, tu le voyais se liquéfier. C'était incroyable. Honnêtement, j'aurais aimé être un petit oiseau pour voir la discussion entre la grand gueule à Alex Jones et son avocat après ça.
Écoute, tout à fait. Puis c'est gros. Moi, c'est là, à un moment donné, où je décroche. C'est même pas fin ou habile. C'est grossier comme façon de faire de la désinformation. Ce serait pas mieux si c'était habile. Mais c'est qu'enfin, ils paient le prix de leur maladresse, puis c'est même un manque de professionnalisme flagrant, là, pas qu'au plan de l'éthique, mais même au plan de la protection de leur propre sécurité ou de leur déclaration.
C'est quand même assez incroyable.
Tout à fait.
Dick Cheney qui vient appuyer sa fille Liz dans une pub qui devient d'ailleurs virale.
tout à fait. Écoute, c'est particulièrement impressionnant parce que Dick Cheney incarnait, il n'y a pas si longtemps encore, peut-être pour certains de nos auditeurs, c'était le mal incarné. On l'a appelé Darth Vader, on lui a trouvé tous les défauts à l'époque où il était vice-président des États-Unis. Et personne ne remit en question son intelligence politique, mais combien de fois a-t-il été critiqué? Et habituellement, il est assez réservé dans les médias. Quand il a lancé un bouquin ou qu'il a connu des problèmes cardiaques, il a fait le tour des émissions là, à la télévision, des émissions grand public pour aller discuter puis se refaire un peu une image politique plus positive. Mais cette fois-ci, c'est un grand coup. Il intervient parce que Liz Cheney, on le sait, elle est une des coprésidentes de la commission qui tente de faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021. Mais en même temps, elle doit passer par les primaires. Donc, aux 2 ans à la Chambre des représentants, notre siège est en jeu. On est constamment en élection. Et là, elle tire de l'arrière. Et ça explique une partie de l'intervention de Dick Cheney qui intervient essentiellement en disant, ben, ma fille a du courage, hein, ma fille a de la détermination, mais il frappe vraiment très fort contre Donald Trump, à qui il reproche, entre autres choses, d'être un peu heureux. Le terme utilisé en anglais, c'était coward. Il y en a plusieurs qui disent, ne vous fiez pas à 2022. Dick Cheney intervient là parce que ce sont les primaires, mais ce qu'on lui prête comme intention, c'est de déjà faire la promotion de sa fille comme candidate à la présidence en 2024. Et on sait qu'il y a un combat au sein des Républicains actuellement. Là, il y a tout ce groupe de partisans de Donald Trump ou encore de gens qui n'osent pas se détourner de Donald Trump trop rapidement parce qu'on pense qu'il peut peut-être encore nous permettre de franchir la ligne d'arrivée en 2024 et d'être gagnant. Mais il y a véritablement cette bataille, en anglais on dit souvent, hein, « for the soul of the Republican Party », pour l'âme du Parti républicain. Si on regarde un conservatisme plus traditionnel chez les républicains, Liz Cheney, effectivement, serait une bonne porte-parole puis une bonne candidate. Est-ce qu'elle va aller chercher les appuis suffisamment forts? Est-ce qu'il est trop tard pour les républicains qui sont maintenant livrés points mains et points liés hein, à la faction plus radicale du parti, peut-être, mais c'est à surveiller. Moi, je pense que ce que Dick Cheney vient de faire, ça va au-delà de la campagne actuelle 2022. Il est fort probable qu'elle perde son siège, Liz Cheney, cette année.
Ah oui, hein?
Tout à fait. Pour le moment, en tout cas, elle est nettement en retard, là, au-delà de ce qu'on imaginait. Donc, pour 2022, c'est peut-être trop tard, mais c'est la raison pour laquelle je dis, surveillons ça. Elle est talentueuse et elle est intelligente. Qu'on soit progressiste ou qu'on soit conservateur, Mme Cheney a de nombreuses qualités. Et ce serait pas étonnant de la retrouver en 2024 avec Donald Trump, pas sûr, hein, parce que pas certain que M. Trump va se représenter, mais elle sera fort probablement sur les rangs.
Ouais. Orban, qui a été accueilli chaleureusement à la CPAC.
Oui, ben écoute, je voulais qu'on fasse un petit suivi rapide de ça, parce que la semaine dernière, on avait dit, pendant longtemps, puis il y a même un lien avec le point précédent, pendant longtemps, les conservateurs tenaient à l'écart tout ce qui semblait nationalisme trop conservateur aux États-Unis ou même xénophobe ou dans certains cas raciste. Et pour bien montrer à quel point chez les républicains, mais chez les conservateurs, on est de plus en plus intéressé par un discours populiste, démagogique, mais qui s'acharne sur les questions d'immigration, sur les questions de famille, mais au sens traditionnel, la famille étant un père, une mère, hein, un homme, une femme, un modèle plus conservateur. Donc, on avait dit, ben oui, le parti puis le mouvement, la CPAC, ont effectué un virage. Et M. Orban, donc, est venu hier. C'était un des premiers invités à prendre la parole. Et il a fait un appel à, et ça, on s'y attendait, il a fait un appel à unir les forces conservatrices. Ce mouvement-là qu'on voit aux États-Unis, c'est cette forme-là ou cette tendance-là de conservatisme, on la retrouve ailleurs également dans le monde occidental. Elle a des ramifications chez nous. On a des tenants de cette option-là au Canada puis au Québec. Et pour le moment, ils sont pas près du pouvoir, mais à certains endroits, ils le détiennent déjà. M. Orban en est la preuve. Puis aux États-Unis, bon, on vient de dire, M. Trump n'a pas tout inventé. Hein, le président Trump n'a pas inventé ce mouvement-là aux États-Unis. Il l'a bien exploité. Il en a tiré profit. Trump sorti, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Et donc, hier, ça expliquait la présence de M. Orban pour parler de thèmes qui sont de plus en plus chers à cette mouvance conservatrice qui est très, très, très à droite, pour ne pas dire dans certains cas, qui fraye avec le fascisme.
Ouais, un mot en terminant, Luc, sur le soutien de Kristen Sinema qui confirme une victoire législative pour Biden et les démocrates, d'ailleurs.
Écoute, M. Biden, ça paraît pas encore dans les sondages, mais ça fait une bonne dizaine de jours que les choses semblent mieux aller pour lui. Par exemple, au plan économique, là, on annonçait ce matin, là, c'est 528 000 nouveaux emplois. Le double de ce qu'on prévoyait dans la création d'emplois. C'est un taux de chômage à 3,5%. C'est ce qu'il y avait avant la pandémie. Donc, M. Biden va les prendre, ces bonnes nouvelles-là. De l'autre côté, le fameux plan de relance, très ambitieux, puis son plan pour lutter contre les changements climatiques, mais apporter aussi une façon de respirer un peu mieux au plan de la santé pour des programmes comme Medicaid ou Medicare. Ce fameux plan, ben, on pensait qu'il était entre les mains de Joe Manchin, le sénateur de la Virginie de l'Ouest, qui finalement avait dit « je vais voter avec les autres démocrates parce qu'on a un peu dégonflé ce vaste projet d'investissement, mais il est plus raisonnable ». On avait oublié que Mme Sinema, c'est l'autre démocrate sur les 50 qui souvent se fait tirer l'oreille. Et pour M. Biden, ben, ce qui reste, c'est des technicalités pour les démocrates et pour M. Biden pour parvenir à faire passer ce projet de loi-là au Sénat. La Chambre va donner son appui, si on le sait déjà. Il restait maintenant les démocrates et les démocrates avaient besoin de 50 votes, de se tenir les 50 ensemble pour permettre à la vice-présidente, qui est la présidente du Sénat, de venir inscrire le vote qui allait défaire l'égalité, parce que les républicains, eux, s'opposent en bloc à la hauteur de 50. Donc, une semaine qui se termine bien, malgré les tensions, bien entendu, avec la Chine, puis les retombées du séjour de Mme Pelosi à Taïwan. En politique intérieure, les choses vont beaucoup mieux. Il restera à savoir si M. Biden va pouvoir en profiter, parce qu'en même temps que j'annonce de bonnes nouvelles, quand que les démocrates se tiennent, ben, y a de plus en plus d'élus démocrates qui refusent de se prononcer, qui détournent le regard. Quand les journalistes disent « Encouragez-vous un deuxième mandat de M. Biden », il y en a qui disent déjà non, il y en a qui l'appuient, mais il y a un grand nombre d'individus qui refusent de se prononcer. Et ça, pour un président dans un premier mandat, c'est une très, très mauvaise nouvelle. C'est pas une bonne tendance. Donc, la pente est encore très raide pour M. Biden.
Oui, non, c'est clair. Merci beaucoup, Luc. Passe une belle fin de semaine. On se reparle lundi.
Belle fin de semaine à toi aussi. Bye.
Bye.